Moi, je suis André, je suis Ismaël au Cachin Oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, c'est Félix de Bourbassi au Cachanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de maîtrise des gens, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, c'est l'heure de parole aux auditeurs et comme chaque mercredi depuis plus d'un mois, l'émission est consacrée à une province. Aujourd'hui, nous sommes dans la province du Nord Kivu, une province à l'est de la RDC, très densément peuplée avec une population estimée à plus de 7,5 millions d'habitants et une superficie d'environ 60 000 km² selon des estimations tirées du document de stratégie de réduction de la pauvreté. Cette forte concentration humaine, en plus des déplacements forcés des populations suite à l'insécurité, sans oublier le surpeuplement des pays voisins, comme le Maniema et le Sud-Kivu, le Nord-Kivu n'est pas découpé en districts. Il compte 5 territoires, les territoires urbains de la ville de Goma. Les villes de Beni et Boutembo sont deux centres urbains situés dans le nord de la province et qui connaissent un développement économique important. La province pour l'instant est dirigée par Julien Paluku et Léon Bairinyanga et dirige l'Assemblée provinciale et cela depuis l'installation de ces institutions. Quel bilan faites-vous du fonctionnement de vos institutions provinciales une année de la fin de la législature? Notre invité est le gouverneur Julien Paluku. Christine Poutou et Pierrot et Lamézi réalisent cette émission. Guy Malzano est à la mise en œuvre. Et Marie-Chantal Lumba à la présentation.
C'est parce que Radio Capitaine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapi.net.
Et notre invité est déjà en ligne. Bonjour, monsieur le gouverneur.
Oui, bonjour, madame.
Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous allons passer près d'une heure quart d'échange avec les auditeurs habitants de la province du Nord Kivu sur le fonctionnement des institutions provinciales et leur impact dans la vie sociale de ces populations. Comme d'habitude, chaque mercredi, seuls les auditeurs habitants de la province du Nord Kivu peuvent intervenir au cours de cette émission. Monsieur le gouverneur, nous allons d'abord suivre une première série d'auditeurs, comme ça vous allez réagir et aussi répondre aux préoccupations de ces deux auditeurs, comme Blaise qui est à Beni, qui est déjà au bout du fil, et Aimé de Goma. Et nous allons demander aux auditeurs qu'ils soient vraiment précis, concis et clairs dans leurs propos, ce qui va permettre un échange, un bon échange avec le gouverneur sur des sujets qui les préoccupent. Blaise, vous êtes à Beni, bonjour. Bonjour Blaise. Nous avons des problèmes avec la ligne de Blaise. Aimé, vous êtes à Goma, bonjour.
Bonjour madame.
Oui, Aimé, vous êtes dans la ville de Goma, le chef-lieu même de la province. Dites-nous quel bilan vous vous établissez du gouvernement, des institutions provinciales de votre province, bien sûr.
Merci beaucoup madame. Je précise tout d'abord que je suis délégué syndical des agents de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Et je suis donc déplacé pour vous parler du bilan de l'Assemblée provinciale comme première institution de la province. Et aussi du bilan du gouvernement provincial du Nord Kivu. Mais madame, je vais brièvement vous dire que le bilan de ces deux institutions, mais tout d'abord les pouvoirs exécutifs, est vraiment négatif, madame. En dessous de la moyenne, et je l'ai dit à connaissance des causes, parce que je sais que le gouverneur des provinces va réagir, madame, et nous avons accumulé, nous, les agents de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Première institution de la province du Nord Kivu, 15 mois d'arrivée de salaire, où moi, personnellement, on me doit 11 600 dollars, madame. Et on peut aller comprendre que sur le plan social, c'est un bilan en dessous de la moyenne. Parce que c'est l'exécutif provincial, donc le gouvernement provincial qui a toujours pu dire non.
Est-ce que vous pouvez être plus précis, à part les salaires, est-ce qu'il y a d'autres secteurs où vous pensez, où vous estimez que c'est négatif?
Là où c'est négatif aussi, c'est que par rapport aux enseignants, madame, nous avions prévu dans notre budget 35 000 francs. Le gouverneur va peut-être me contredire l'année 2007, 2008, 2009. Mais jusqu'aujourd'hui, même pas 5 000 francs n'ont été donnés aux enseignants. Parce que madame, vous savez, l'enseignement primaire et secondaire est professionnel et a la compétence exclusive de notre province. Même ça aussi, ça n'a pas été fait. Maintenant, dans d'autres domaines, madame, dans le domaine économique, madame, là aussi, le bilan est très négatif. Pourquoi, madame? La corruption a été domiciliée dans la province de l'Ouest. Toutes les taxes, madame, à plus de 80% sont détournées par ceux qui les recouvrent. Et madame, nous sommes au Nord-Kivu sur le plan des droits de l'homme. Sur le plan des droits de l'homme, madame, au Nord-Kivu, c'est le bilan très négatif parce qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. L'exemple qui concerne la province de Nord-Kivu, madame, nous avions voté un édit de finance qui fixe une nomenclature des impôts et taxes liés à la province de Nord-Kivu, où on devait recouvrer chaque fois les amendes transactionnelles et les cautions pour les infractions, madame. Mais je vous assure, si vous posez la question au gouverneur des provinces, en tout cas, toutes ces taxes-là n'ont jamais été recouvrées. Et moi, comme un petit praticien de droit, parce que je passe souvent dans les palais de justice pour me rendre compte de la situation, l'évasion fiscale a atteint des proportions très inquiétantes en province de Nord-Kivu, madame. Et pour dire, parce que là, je ne peux pas toucher les bilans de l'Assemblée provinciale de Nord-Kivu, parce qu'à moins que vous ne me le permettiez,
oui, en fait,
mais sinon, j'ai aussi des éléments pour les bilans de l'Assemblée provinciale de Nord-Kivu.
Oui,
d'abord, pour ce qui concerne le gouvernement provincial.
En une minute, parce que vous êtes nombreux à vouloir participer à cette émission, à échanger avec le gouverneur. Nous vous écoutons en une minute ce que vous pensez de l'Assemblée provinciale.
Madame, je suis à l'Assemblée professionnelle du Nord-Kivu, comme je vous le disais tantôt pour ces paroles, mais aussi je suis au bureau d'études de l'Assemblée professionnelle du Nord-Kivu, où toutes les questions passent par moi, surtout les questions législatives, où je veux vous dire que le bilan de l'Assemblée professionnelle du Nord-Kivu, ce qui concerne les contrôles parlementaires, c'est vraiment la première décision de la République à ce qui concerne les contrôles. Parce que, madame, nous avons été à l'Assemblée professionnelle du Nord-Kivu depuis au début, Et nous avons eu à effectuer deux contrôles au gouvernement provincial de Nord-Kivu. Et les deux contrôles ont été débouchés par des motions contre le gouvernement provincial de Nord-Kivu. Et madame, si vous parcourez les rapports de ces contrôles-là, parce qu'il y a même des tout derniers rapports qui avaient fait couler beaucoup d'engrais et de salice, il faut encore rentrer sur le problème de l'évasion et détournement des deniers publics, madame. Parce que si le détournement a fait que madame nous a accumulé 15 mois d'arrivée de salaire, on n'a pas été en mesure de nous payer. Alors que notre province est parmi les grandes provinces pourvoyeurs des recettes de notre
pays. Mais vraiment, nous nous excusons.
Le bilan est très positif. Sur le plan législatif, madame, je vous dirais que l'Assemblée provinciale de Nord-Kivu a adopté au moins 7 crédits. Parmi lesquels 4 crédits de classe et beaucoup d'autres crédits. Je sais qu'il est fait compléter par les gouverneurs des provinces et les autres intervenants en tant que
fait.
D'une manière générale, les assemblées provinciales ont rendu un énorme service, plus de recommandations.
Mais
c'est 100 recommandations qui ont été adressées au gouvernement provincial de Nord-Kivu, parmi lesquelles on a dit pour ça, c'est loin de t'expliquer.
Merci beaucoup, Aimé. Vous n'allez pas vraiment monopoliser la parole parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui veulent intervenir au cours de cette émission. C'est comme Vincent qui est à Béni. Bonjour, Vincent.
Oui, bonjour, moi c'est Vincent Moumbès,
oui.
Je fais la partie de Béni.
S'il vous plaît, veuillez éteindre votre poste récepteur avant de pouvoir intervenir. Nous allons d'abord lire le message de Mengi Viti qui nous écrit de Boutembo, le temps que vous puissiez éteindre votre poste récepteur pour éviter un son assez désagréable à l'antenne. Il y a Mengi Viti, gardez l'écoute, mais éteignez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Le temps de lire ce message de Mengi Viti qui nous écrit ceci. Je pense que les institutions provinciales de cette première mandature ont bien travaillé. Malgré certaines irrégularités, notre province est la plus meurtrie de la RDC. Ce sont des gens, soit de l'opposition, soit des ambitieux du pouvoir, qui intoxiquent négativement la population. Voilà l'avis de Mengi Viti de Boutembo. Vincent, nous revenons à vous. Nous vous écoutons.
Oui, merci beaucoup. Moi aussi, je vais emboîter les pas de... Moi, c'est Vincent Moumbert, j'appelle la partie de Béni. Moi, je place le bilan des institutions provinciales d'une manière générale sur l'ensemble du pays en général, même la province Nord-Kivu en particulier. Je le place au point, je peux donner une cote positive.
Mm-hmm.
Par le fait que moi, j'estime qu'ils ont agi dans ce qu'on appelle le learning by doing. C'est-à-dire apprendre à l'agissant.
Mm-hmm.
Ils ont hérité un modèle qui n'avait pas, il n'y avait pas un modèle pour lequel c'était inspiré. Alors, s'il faut aller tout droit au bif, Je suivais un jour, j'ai pu faire des recherches, mais quand j'ai réalisé que le gouvernement provincial, par exemple, est arrivé à construire près d'une dizaine d'écoles, il y a des centres hospitaliers, par exemple, chez Michel Kassindi, à tout côté, il y a un centre hospitalier. À Béniou, dans les territoires de Routure, on voit des ponts qui sont construits, des écoles qui sont construites. Mmh. Et dans l'histoire de la province, je pense que les autres gouverneurs, si je peux les citer, Kanyamuhanga, on le plébiscite le meilleur gouverneur pour avoir construit la résidence du gouverneur. On plébiscite aussi que Ferufuli est aussi meilleur pour avoir bâti ce qu'on appelle aujourd'hui l'université de Goma, de Nigoy. Moi, j'estime qu'à ce cas-ci, les présentes institutions provinciales, à la tête, disons, l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, j'estime qu'il y a des débits quand même, que c'est un bilan qui est positif, pas seulement que ce bilan est quand même positif, mais quand même il y a des réalisations.
Oui, le temps d'apprendre, comme vous avez dit, le Nimbaïdoui. Merci beaucoup, Vincent de Béni, pour votre intervention. Nous allons à Kirumba. Bonjour, Jean-Marie. Oui, Jean-Marie, nous vous écoutons. Quel est votre bilan?
Ok, moi je suis d'abord heureux que vous ayez choisi comme invité le numéro 1 de la province, dont je salue la sagesse. Alors ce n'est pas facile de faire le bilan. Pour la première fois, nous avons eu à élire nos propres dirigeants et les représentants. Alors ce qu'ils ont réalisé, c'est quand même différent de rien. Soyons reconnaissants quand même. Diriger un peuple, ce n'est pas une chose facile. La province de Julien, que Julien dirige, connaît des séquelles de guerre, il faut le dire. Il le sait bien. Parmi les réalisations, je peux signaler la construction de près de 17 écoles, comme a dit notre intervenant, dans mon quartier, il y a d'ailleurs une école là où je me retrouve, qui s'appelle IPEM, Institut Professionnel Numérique de Kirumba, dont le gouverneur avait envoyé un certain MTT pour l'inauguration. Là, c'est positif. Alors, il y a aussi l'aménagement de quelques tronçons routiers qui étaient jadis impraticables. Il y a des agronomes qui circulent partout à moto pour combattre l'insécurité alimentaire. Je voudrais faire remarquer au gouverneur que je connais très bien que sur la nationale numéro 4, il y a encore deux ponts en bois et lui-même passé par là lorsqu'il était administrateur du territoire de Lubero, à Kitombiro. Il y a un pont en bois, même quand je passe par là, et lui-même en volant sa voiture, il passe par là. Et l'autre, c'est à Lubero, un endroit appelé 45. Le gouverneur, quand il était administrateur du territoire de Lubero, avant d'aller à Beni, via Butembo, pour aller au donneur, il connaît cet endroit. Il passe par là, bien sûr. Il voudrait que prochainement, on change quand même à aménager certains sites, certains endroits d'un niveau d'accueil. Alors, sur le plan sécuritaire, il y a encore du travail à faire, il faut le dire. La preuve est que la nuit dernière à Kirumba, à 19h20, un des intervenants dans Parole aux auditeurs, qui s'appelle Witness Pacheli, a été abattu à quelques mètres de son domicile à 4h ici à Kirumba. Donc, les signes de sécurité demeurent. Merci à ceux qui dirigent la province. Mais le travail est encore grand. Il faut dire quelque chose aussi. Les cadres n'ont pas eu assez de temps réservé à l'écoute du cri du peuple. Certains vivent dans l'opulence alors que les électeurs végètent dans un océan de misère. Alors je pense qu'avec les prochaines élections, le peuple va juger cette fois-ci, aura les stylos rouges, sanctionner positivement ceux qui ont bien fait et sanctionner négativement ceux qui auront mal fait. Alors coup de chapeau à ceux qui essayent quand même et d'écouter le peuple, c'est le cas de certains dont nous taisons les noms et qui essayent de faire quelque chose.
Merci beaucoup Jean-Marie et toutes nos condoléances à la famille de notre auditeur qui est éprouvé. Et nous vous remercions Jean-Marie de Kirumba et je voudrais signaler à tous les auditeurs qui habitent la province du Nord Kivu, que vous soyez dans la commune de Goma, de Karisimbi, dans la commune de Beni, Bungulu, Wenzori, ou à Mouekera, ou encore que vous soyez à Lubero, à Masisi, à Rutshuru, à Walikale, n'hésitez pas de composer le 081-869-69, 081-869-69, ou de nous écrire à l'adresse internet pa contact@radiocapi.net, comme l'a fait Papi Talahali, qui est étudiant à l'Université de Goma. Juste après ce message, nous allons donner la parole à notre invité, le gouverneur Julien Paluku. Papi nous écrit ceci: le bilan des institutions provinciales au Nord Kivu est mitigé au niveau du gouvernement provincial. Le pourcentage est de 4,5% sur toute l'étendue de la province depuis 2007 jusqu'à nos jours. L'Assemblée provinciale est improductive sur le plan législatif. Le contrôle est inexistant dans les services publics et les entités territoriales décentralisées. Voilà l'avis de Papi Talahali, étudiant à l'Université de Goma. Émission spéciale Parole aux auditeurs consacrée à la province du Nord Kivu.
Quel bilan faites-vous à ces jours du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Les auditeurs habitant la province du Nord Kivu, prenez rendez-vous avec toute l'équipe PA ce mercredi 22 juin de 10h à 11h15. Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action.
Monsieur le gouverneur, vous avez suivi cette première série d'auditeurs. Chacun a donné son avis et a établi un bilan de la gestion ou du fonctionnement des institutions provinciales dans la province du Nord Kivu. Que dites-vous à Aimé qui estime que jusqu'à présent, l'exécution du budget, notamment dans le paiement des agents de l'Assemblée nationale, il parle de d'une dizaine de mois impayés. Qu'est-ce que vous lui dites?
Merci beaucoup, madame. Avant de répondre, j'ai quand même trois observations générales à faire, si vous me les permettez. Mm-hmm. Une observation à la radio Capi, une deuxième aux auditeurs et une troisième au peuple congolais pendant une minute. Si vous le permettez.
Mais nous vous écoutons, monsieur le gouverneur.
La première observation que j'ai destinée à la radio Capi, c'est que je ne sais pas si vous qui organisez cette émission, vous savez la portée effectivement de l'évaluation des institutions provinciales. Parce qu'en fait, on risque de confondre une évaluation des activités qu'on voit sur le terrain avec ce qui serait une évaluation des politiques publiques de la gouvernance au sein des institutions provinciales. Donc je pense, à mon avis, qu'il faudrait plutôt qu'on évalue les politiques publiques mises en place par les institutions provinciales. Ça, c'est la première observation de la radio Capi. La deuxième, c'est aux auditeurs. Lorsque les gens sont en train de faire les bilans des institutions provinciales, est-ce qu'ils ont eu le temps de lire le programme quinquennal du gouvernement provincial pour qu'à la suite de ce que nous étions fixés comme objectif, ils puissent réaliser ce qui ont été atteints et ce qui n'ont pas été. Et par rapport aux auditeurs, une deuxième observation, est-ce qu'ils connaissent les compétences qui relèvent du pouvoir central, celles qui relèvent de la province, celles qui relèvent du pouvoir au niveau local? La troisième observation au niveau du peuple congolais, c'est que le pays, depuis 50 ans, a évolué dans un déficit de culture évaluative. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu d'évaluation depuis 1960. Il n'y a pas une seule politique publique qui a été évaluée, ni au niveau national, ni au niveau provincial. C'est ainsi que ce déficit de culture évaluative est une base des erreurs qui sont commises par les évaluateurs, parce qu'ils versent dans la globalisation en prenant toutes les politiques publiques qui ont été mises en place depuis 60. Jusqu'aujourd'hui, ils les évaluent et malheureusement sur la tête de ceux qui gèrent actuellement. Voilà les trois observations que j'ai fait à l'intention de la radio Capi, des auditeurs et du peuple congolais.
Oui, monsieur le gouverneur, c'est pourquoi nous insistons qu'au cours de ces genres d'émissions, que ce soit les habitants de la province qui puissent intervenir, parce que eux, ils vivent au quotidien ce qui se passe dans la province, et nous souhaitons souvent avoir le gouverneur parce que c'est lui qui exécute le budget, et c'est une émission faite d'échange, de communication, aider à chacun de pouvoir se retrouver et d'apprendre aussi, et d'être informé et de décrier, et aussi de pouvoir échanger sur certaines situations. C'est pourquoi nous organisons ce genre d'émission. Monsieur le gouverneur, vous avez la parole.
Merci beaucoup. J'ai retenu 5 intervenants. Je vais rapidement, de façon transversale, parler de l'un ou l'autre. D'abord, M. Aimé, qui a appelé de Goma, qui est dans l'Assemblée. C'est quand même dommage qu'il commence à faire une évaluation d'une institution publique, des politiques publiques par rapport à lui-même. Si la province lui doit, ou l'Assemblée lui doit 11 000 dollars, vraiment, le peuple congolais doit-il retenir que la province ne fait rien parce que lui-même souffre dans son fort intérieur en tant que personne, au lieu d'évaluer quelles sont les politiques publiques que nous avons mises en place au Nord Kivu? Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est que lorsque quelqu'un dit que dans les budgets, on a retenu X dollars, et que cela n'a pas été fait. C'est une vision trop simpliste dans l'évaluation. Parce que dans l'analyse de discussion du bilan, lorsque vous évaluez un budget, vous devez recenser les activités qui ont été prévues, vous devez mettre en face de ces activités les moyens qui étaient prévus et les moyens qui ont été effectivement réalisés. Aujourd'hui, lorsque nous mettons en face les moyens que nous avons mobilisés, nous avons réussi à mobiliser 12% de ce que nous devrions avoir. Et on nous demande de réaliser 88% qui reste sur les moyens que nous n'avons pas obtenus. Voilà là où j'ai dit effectivement que certains intellectuels congolais sont en train effectivement de faire verser la population dans un obscurantisme qui peut l'amener à croire que rien n'a été fait, alors que les moyens qui devaient nous permettre de réaliser les objectifs que nous sommes assignés ne l'ont pas été, surtout quand on connaît l'histoire récente de notre Kivu, qui oublie que sur les 5 ans que je viens de passer à la tête de la province, je ne viens que de gérer la province totalement sur 2 ans. Et donc, fort de cela, comment les gens croient que je dois avoir à atteindre des objectifs à 100% par rapport à ce que je m'étais fixé au départ. Je voudrais rappeler à M. Aimé que, à tant qu'intellectuel, c'est un juriste bien formé dans une des universités que je connais, il doit cesser de verser dans la passion. Il faut informer l'opinion que nous avons eu des difficultés sur le terrain, nous avons eu ce que nous avons pu réaliser, comme l'a si bien reconnu M. Vincent et M. de Kirumba, qui reconnaît que même dans l'arrière-pays, dans l'arrière-province, à Kirumba, il y a quand même quelque chose qui a été réalisé par la province comparativement à toutes les gouvernances qui se sont succédées dans la province du Nord-Kivu. Donc je crois que c'est cette approche-là objective qui ne prise pas de la subjectivité que je voudrais inviter de la part des auditeurs pour que chacun puisse analyser à considérer que le Nord du
Monsieur le gouverneur Aimé déplore la corruption, une évasion fiscale, donc selon lui la province aurait pu mobiliser plus que ce qu'elle a fait actuellement. C'est vrai qu'avec l'insécurité, il y a eu aussi d'autres cas qu'il fallait gérer, mais il déplore la corruption, évasion fiscale. Qu'est-ce qui a été fait dans votre programme pour pouvoir au moins réduire la fraude et aussi voir dans quelle mesure mettre fin et pouvoir mobiliser davantage les recettes? Ça pourrait permettre, entre autres, de payer les agents de l'administration de l'Assemblée provinciale.
Voilà, madame, encore un déficit d'information. Monsieur Aimé, qui me connaît bien et que je connais bien, sait très bien que lorsque je suis arrivé à la tête de la province avec mon gouvernement, nous avions les recettes du trésor public de 1 million de dollars. Aujourd'hui, nous versons au trésor public au niveau central 7 millions de dollars par mois. Alors, je veux lui poser la question. Les 6 millions-là que nous avons réussi à mobiliser durant ce quinquennat, où est-ce que ces 6 millions par mois allaient de la part de ceux qui nous ont précédés? Parce qu'il faut se poser la question. J'ai trouvé les recettes à 1 million. Aujourd'hui, elles sont à 7 millions par mois, madame. Lorsqu'on voit la province, les recettes propres de la province, je les ai trouvées en 2007 à 40 000 dollars par mois. Aujourd'hui, nous sommes à 500 000 dollars par mois, les recettes de la province. Entre celui qui produisait 40 000 dollars par mois en 2006 et moi qui produis 500 000 dollars, je les ai multipliés par 10, qui a favorisé l'évasion fiscale, qui a favorisé la corruption, qui a favorisé la fraude.
C'est déjouement.
Le peuple congolais, le peuple du Nord Kivu, doit être effectivement informé de ce que nous faisons. Et quand il dit qu'ils ont 15 mois, madame, tout ça, je dois dire à l'opinion que c'est du pur mensonge qu'on est en train de filtrer dans l'opinion congolaise. Les quelques reliquats qui restent sur chaque mois, à supposer que quelqu'un avait 100 dollars comme salaire, on lui paye 80 et il reste 20. Alors lui accumule les 20 qui sont restés pour tous les agents et il les convertit, il dit ça fait 15 mois d'arriéré que nous n'avons pas payé. Alors que nous n'avons pas mobilisé les 100% des recettes. Voilà ce que je dois restituer à l'opinion pour que les gens cessent de croire que le gouvernement provincial doit 15 mois d'arriéré aux agents de l'Assemblée. Ce sont des petits reliquats qu'il a additionnés et qu'il transforme en mensualité pour vouloir tromper l'opinion et s'attirer toute une population en croyant que le gouvernement provincial n'a rien fait.
Donc,
je reconnais néanmoins que nous pouvons avoir des erreurs comme homme, et cela relève de la nature humaine. chacun là où il gère, il y a toujours des problèmes. Donc, mais on ne doit pas rester de la passion en voulant croire que faire croire que rien n'a été honoré que vous.
Nous avez fait un doublement des recettes. Nous allons revenir sur vos priorités et votre programme parce que en augmentant ces recettes, en mobilisant davantage les recettes, vous avez des priorités dans l'exécution de votre programme. Nous allons écouter d'autres auditeurs avant de revenir sur votre projet, Maître Lumbu Lumbu Ilé Agoma. Et nous allons lire aussi plusieurs messages qui nous viennent à travers pa@radiotapi.net. Monsieur le gouverneur, restez en ligne.
Parole aux auditeurs.
Nous allons lire d'abord ce message de Mwanga. Il dit « Le bilan du gouvernement provincial reste négatif car aucune route bien entretenue, la situation sanitaire de la population reste critique, les possesseurs du pouvoir avec les officiels militaires ne font que s'enrichir, l'impunité règne, les tueries pour dire pour ne pas dire l'insécurité, le Parlement est corrompu par le gouvernement provincial, donc pas de contrôle. En bref, le Nord Kivu était dirigé par une association de gens qui se sont enrichis. C'est ce que pense Mwanga qui nous a écrit de Goma. Nous avons Méthode de Walikale. Bonjour Méthode.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les invités de la radio Okapi.
Nous vous écoutons.
Oui, merci Chantal de m'avoir accordé la parole pour participer à cette émission. Eh bien, d'abord, je vous remercie aussi d'avoir associé son excellence, monsieur le gouverneur, à l'émission. Bien, juste quelques seulement observations avec moi ici. Mm-hmm. D'abord, le bilan de la gérance et de notre gouverneur semble être négatif. Et cela comment? Et parmi les cinq chantiers qui ont été prônés par les chefs de l'État et adoptés par le gouvernement, eh bien, les chantiers éducation dont on parlait à Walikale, il semble que les chantiers n'existent pas, et d'autant plus que la construction d'écoles. Il n'y a qu'une seule école qui a été construite à Walikale, et seulement la seule école, et qui n'avait pas, je dirais, bien été construite comme les autres qui ont été construites. On a parlé des ponts construits au Grand Nord, mais chez nous à Walikale, aucune route n'a été réhabilitée. Vous quittez Walikale pour Massissi, c'est un calvaire. Des Walikale pour Rombo, c'est la même chose. Le chantier eau, la population de Walikale n'a pas d'eau. La population de Walikale boit l'eau des sources qui ne sont pas bien aménagées. Et bien, voyez-vous que c'est vraiment un grand problème.
Revenons par exemple à l'école. Vous dites que l'école n'a pas été bien réhabilitée. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Qu'est-ce qui a été fait? Vous vous attendiez à quoi? Soyez plus concret et concis dans ce que vous dites.
Oui, l'école a été construite, ce n'est pas réhabilité, mais l'école a été construite. Mais il n'y a pas déjà que l'école a été construite, mais vous pouvez venir dans l'école, elle s'est détruite déjà. Pourtant, c'est une école qui a été récemment construite, mais il semble que les gens qui ont construit l'école ne s'y mettaient pas aussi pour bien la construire. Eh bien, vous voyez que ça ne va pas déjà. C'est la seule école qui a été construite dans tout Walikale. Voyez-vous, Chantal.
Merci, Méthode de Walikale. Vous souhaitez qu'on puisse réhabiliter les routes, voir dans quelle mesure amener à accéder, que les populations de Walikale puissent facilement accéder à l'eau. Nous vous remercions. Nous avons Maître Lumbu Lumbu de Goma. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je salue la participation du gouverneur de province à cette émission.
Mm-hmm.
Bon, en fait, à notre niveau, nous pensons que lorsqu'il faut faire une évaluation plus ou moins globale, parce qu'il ne faudrait pas seulement voir l'évaluation du gouvernement provincial en tant qu'exécutif, il faut prendre le concept de gouvernement au sens large, ça veut dire y inclut l'Assemblée provinciale, et s'il faut commencer par là. Lorsque j'essaie de voir, par exemple, le nombre d'édits qui ont été votés à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, je me dis, bon, la plupart des édits ont été votés pour des raisons essentiellement financières, donc il n'y a pas vraiment eu d'édits qui ont concerné le social de la population, alors que c'est ça qui intéresse beaucoup plus la population. Donc, de ce point de vue-là, d'abord, moi, j'évalue très, très négatif le bilan de l'Assemblée provinciale, et ce qui doit avoir des répercussions sur le plan du gouvernement provincial, parce que là également, lorsqu'on essaie de voir les planifications, les différents budgets, les prévisions du gouvernement en matière de reconstruction des routes, d'écoles, d'hôpitaux, etc., l'évaluation est également très, très négative. C'est vrai qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître que le gouverneur Julien Kaungia a fait quelques tentatives, quelques efforts de construction d'écoles, de réhabilitation d'écoles, ça et là. Mais dans l'ensemble, il faut reconnaître que les bilans est largement négatif.
S'il vous plaît, maître Lumbulumbu, maître Lumbulumbu, vous dites que les édits, pour la plupart, ce sont des édits financiers, mais est-ce que vous ne pensez pas que sans finance, il est difficile de faire quoi que ce soit? Il faudrait avoir les moyens de la politique.
Oui, mais les finances, pour quelle fin? Les finances, pour que les sociales soient visibles, c'est pour que, par exemple, les écoles soient construites, c'est pour que les marchés soient construits, c'est pour que les stades soient, les hôpitaux soient réhabilités. Ces édits, certainement, ont été élaborés, mais les autres domaines qui intéressent la vie au Nord Kivu, par exemple, les domaines de l'agriculture, les domaines sociaux, ce sont des domaines qui devraient également intéresser les députés provinciaux, mais fort malheureusement, nous n'avons pas eu d'édits dans ce sens-là. Et par rapport plutôt à la prévision au niveau du gouvernement provincial, moi, lorsque j'essaie de lire les différents budgets de la province depuis que le gouverneur Julien Kaungia est là, on nous a promis ciel et terre. Autant d'écoles, autant de routes, autant d'hôpitaux, autant de marchés. Mais lorsque vous essayez de faire l'évaluation de ce qui a été réalisé par rapport à ce qui avait été promis, ce qui avait été prévu dans le budget, mais l'évaluation est vraiment, vraiment négative. C'est vrai, nous reconnaissons, et là je félicite quand même le gouverneur, il y a eu certains efforts que moi-même je reconnais. Je connais combien d'écoles il a construit à Routuro. Je connais combien de ponts il a construit. Je connais à Walikal et qu'est-ce qu'il a fait, parce que nous avons tous ces résultats-là, nous les avons eus ensemble avec lui dans des réunions, mais il faut reconnaître que de manière globale, le bilan est vraiment négatif.
Dans les actions, les attentes sont énormes, les actions ne sont pas à la hauteur des attentes, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, oui, ça veut dire que les réalisations n'ont pas été à la hauteur des attentes de la population du Nord Kivu.
Merci beaucoup.
Une population qui venait de traverser plusieurs années de guerre et qui avait beaucoup d'attentes par rapport à cette législature.
Merci beaucoup, Maître Lumbulumbu. Je lis aussi ce message de Moïndo Mbweki de Butembo. J'étais parmi ceux qui n'avaient jamais accepté que le gouvernement du Nord Kivu était en train de s'efforcer dans la réalisation des 5 chantiers, mais après avoir fait la ronde de la province, je trouve largement positif le bilan du gouvernement provincial du Nord Kivu. En une année de la fin du mandat, le gouvernorat a su construire près de 10 écoles modernes à travers tout le territoire de la province, des ponts jetés ça et là sur les rivières à travers la province, des hôpitaux et centres de santé, aussi un auditoire. Parmi toutes ces œuvres, celles qui m'ont marqué sont le pont de Mubana en territoire de Lubero, où les populations de ce coin n'avaient jamais vu un camion, l'école primaire Loa dans le Walikale, première à être construite après les colons blancs, et l'hôpital de Kasindi qui a fait venir même des malades de l'Ouganda. Voilà ce que nous écrit Moïndo Mbweki de Butembo. Il y a aussi ce message de Chantal Faïda, elle est à Goma. Une question pour notre gouverneur, pourquoi la démocratie n'est pas encore une réalité dans son gouvernement? Prenons l'exemple des marches pacifiques des jeunes sabotés en mai dernier. Le gouverneur va pouvoir répondre à votre préoccupation, Madame Faïda, et j'espère que vous êtes branchée sur Radio Capi à Goma, c'est sur 105.2. Vous aurez une réponse à votre préoccupation. Nous prenons Steve de Béni. Bonjour Steve. Bonjour Steve.
Oui, bonjour, c'est Steve.
Oui, Steve, nous vous écoutons.
Oui, seulement aussi, je peux dire que le bilan vraiment est mal. D'abord, je ne critique pas seulement le gouvernement provincial, mais je commence d'abord par l'Assemblée, notre Assemblée. Parce que, comparativement à d'autres assemblées, moi, je peux maintenant avoir une idée de président de différents qui disait que non. Vraiment, il n'a pas vu les rôles des assemblées provinciales, même les deux qui vont, on n'a rien fait, parce que même nous, ici, à Bill, nous avons beaucoup de problèmes.
Oui, mais allez-y, spécifiquement, avec des exemples, concrètement, parce que là, quand vous parlez dans la globalité, il sera difficile au gouverneur de pouvoir vous répondre.
Oui, dans notre province, par exemple, à nous, ici, à Bill, nous avons des problèmes qui me concernent. On devait faire même des chambres foraines ici à Béni, voir comment le président de l'Assemblée devait venir et voir les problèmes que concernent la ville de Béni et comment même présenter ça au niveau de notre province. Et depuis que l'Assemblée provinciale est là, je n'ai jamais vu aucune motion de défiance contre les ministres. C'est-à-dire que tous les ministres de corruption ont été défaits. Ils n'ont pas eu de corruption. Ça, c'est inimaginable. Donc, tout ce qui concerne notre gouvernement provincial, ici, nous avons une forme de loup au niveau de la sécheresse. Mais aucune solution n'a été pour. On n'a pas eu aucune solution. Et nous avons des moments alors que notre pays, c'est parmi le pays qui a vraiment deux goûts, mais nous manquons d'eau potable. Et la solidarité essaie d'aménager les affaires, mais tu vois, dans de bonnes fontaines, il n'y a pas d'eau potable. De toute façon, ce sont les problèmes. Franchement, c'est que notre gouverneur nous avait promis, mais il n'a rien fait. Il avait quand même, il va vous donner la route de la ville de Boutembo. Mais ce que c'est lui qui l'a fait, c'est le gouvernement qui l'a fait, mais tout ça.
Merci beaucoup, Steve. L'accès à l'eau potable, la réhabilitation des routes, lutte contre l'impunité. Merci, le gouvernement va répondre. Nous avons Didier de Boutembo, bonjour. Nous avons perdu Didier de Boutembo. Nous allons lire ce message de Edemaga Oléa de Boutembo. Coup de chapeau pour le gouverneur de la province du Nord Kivu qui mérite un applaudissement très favorable, à moins qu'on soit de mauvaise foi pour dire le contraire, pour dire que le bilan est à moitié positif malgré certaines imperfections involontaires. Donc pour moi, je demande au gouvernement provincial ainsi que central de considérer les problèmes de l'insécurité de la population comme une priorité pour le reste du temps qui reste, le reste du temps à ce mandat. Il y a aussi Mundo Masaki de Goma qui nous écrit ceci. Sur le plan politique, il n'y a pas eu de cohésion entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. La motion contre le gouverneur avait échoué car elle avait été monnayée. Sur le plan sécuritaire, le gouverneur n'a pas su stabiliser le territoire de la province. La preuve en est que même quand il était dans le Rutshuru, les balles crépitaient. Sa province d'origine est d'ailleurs la plus instable durant toute la législature. Sur le plan socio-économique, la population remet son sort à l'éternel car aucune politique d'emploi n'est envisagée. Aussi, le gouvernement se comporte en spoliateur des paisibles citoyens. Beaucoup de taxes pour rien, comme la fameuse taxe provinciale de 1% sur la valeur CIS des marchandises importées, qui est passée à 0,5% à cause des contestations. Et sur le plan infrastructure, mieux vaut se taire, car la province est comme le désert du Sahara, où le vent et la poussière font bon ménage, ne serait-ce que pour citer la ville de Goma. Qu'en est-il du pourcentage des réalisations de la province du Nord Kivu? C'est la dernière phrase de Mohindo Masaki. Nous allons écouter Gilbert et puis redonner la parole à notre invité. Bonjour Gilbert.
Bonjour madame.
Gilbert, nous vous écoutons.
Oui, à ce qui concerne le bilan de notre province du Nord Kivu, je peux dire qu'elle est largement négative. Parce que moi, j'habite dans la commune de Karisimbi, quartier d'Irunga. Dans notre quartier ou commune, il n'y a pas de l'eau, madame, ni l'électricité, ni de route. Avant l'élection, il y avait la route appelée route d'Irunga, qui était d'Irunga jusqu'au 3 lampes. Mais cette route, après l'élection, cette route est totalement oubliée. Elle n'est pas même réhabilitée. Mais le maire de la ville est venu un jour détruire des maisons partout en disant qu'on va y tracer des routes. Mais on se demande où s'est partie cette idée, de construire des routes. À ce qui concerne l'électricité, nous sommes à proximité de l'aéroport international de Goma. Mais nous n'avons pas de courant. Les gens se mobilisent pour acheter des trucs qui groupent en piquant, voir comment ils vont se satisfaire. À ce qui concerne l'eau, non, ici, nos sœurs et nos mamans souffrent beaucoup parce que nous n'avons pas de l'eau. Un bidon coûte 200 francs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour vivre?
Merci.
Goma n'est pas seulement le centre-ville où on va construire des routes d'eau potable et de l'électricité. Partout, on a besoin de l'énergie.
Merci beaucoup, Gilbert. Gilbert, nous avons compris votre question, vos préoccupations, l'eau, l'accès à l'eau, l'électricité, les routes. Nous vous remercions. Le temps d'accorder la parole à notre invité pour qu'il puisse répondre à cette série d'auditeurs.
Oui, mais merci madame. Moi je suis heureux, hein. Je suis très très heureux d'ailleurs, que au moins chaque auditeur qui appelle reconnaît qu'il y a une action qui a été réalisée dans chaque coin de la province, ce qui n'avait jamais été fait depuis 1960. Donc c'est ça ma joie, parce que je sais que quand on fait des évaluations de notre province,
il y a des points où on ne peut même pas reconnaître ce qui a été fait. Au Nord Kivu, au moins, ça fait quand il appelle, il dit ceci a été fait, mais il faut en plus. Mm. Donc, voilà, voilà ma joie que je veux exprimer à tous les auditeurs, et dont je les remercie.
Et merci à
la deuxième précision, c'est que il faut que les auditeurs évitent la confusion des compétences. Il y a ce qui doit être fait par le gouvernement provincial, il y a ce qui doit être fait par les entités déconcentrées des territoires, il y a ce qui doit être fait par les mairies, il y a ce qui doit être fait par les communes. J'ai été déjà maire, j'ai déjà été administrateur du territoire, donc on ne doit pas, moi, commencer à me reléguer encore au poste d'administrateur des territoires ou des maires. Je l'ai déjà été. C'est pas moi qui dois aller couvrir les trous.
En tant que garant de la province, vous avez un mot sur les bourgmestres et les maires de ville.
Alors, voilà maintenant quelques réponses aux questions. Moi, je pense que lorsqu'on dit que rien n'a été fait dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, moi, je suis arrivé à la tête de la province de Nord-Kivu pour ne donner qu'un indicateur, pas que moi, je suis planificateur de formation, je donne les indicateurs. Je suis arrivé au Nord-Kivu en 2006, il n'y avait que 28 000 filles à l'école secondaire. Mais grâce à la politique que nous avons mise en place au gouvernement provincial, aujourd'hui, en 2011, nous avons 88 000 filles à l'école secondaire. Ça fait un taux d'approchement de 300%. Donc je pense que voilà un indicateur que nous devons montrer à l'opinion. Quand on dit qu'est-ce que le gouvernement provincial a fait. Lorsque nous avons trouvé 28 000 filles à l'école secondaire, nous avons mis une politique qui amène toutes les filles à l'école. Nous sommes à 88 000 filles dans le quinquennat que nous avons fait, nous venons de faire. Ça fait 300% comme résultat que nous avons obtenu. Je pense que ce sont des indicateurs comme celui-là. Je prends par exemple la santé. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de la province, le taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire les femmes qui mouraient à la suite de l'accouchement, était autour de 60 pour 1000, c'est-à-dire 60 décès pour 1000 naissances vivantes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à réduire le taux de mortalité maternelle à presque 20 à 25 pour 1000, c'est-à-dire la réduction de plus de 50% de ce taux de mortalité maternelle. Il en est de même de la mortalité infantile. Ce sont des indicateurs, effectivement, qui relèvent d'un certain nombre de personnes qui doivent les examiner, oui. Mais que les communs des mortels ne voient pas tout de suite.
Mais imaginez-vous,
par exemple, lorsque j'ai construit un hôpital à Katindi, là-bas, ou dans le territoire de Beni, pour aller accoucher, une femme devait faire 23 km pour quitter les Grabens et aller à Tiondo. Mais du moment que nous avons placé cet hôpital là-bas, maintenant, on a réduit le taux de mortalité infantile ainsi que le taux de mortalité maternelle. Toutes les femmes accouchent
dans cet hôpital. S'il vous plaît, M. le gouverneur, revenons.
Par exemple, des indicateurs que nous voulions donner à l'opinion pour que les gens voient. Parce qu'il ne faut pas parler comme ça à la volée pour dire on n'a jamais rien fait.
S'il vous plaît, M. le gouverneur.
Précis qu'on peut citer.
Oui, s'il vous plaît, M. le gouverneur, concernant les infrastructures, comme avec Kimoindo, Mastaki, dit qu'il y a Goma, c'est plein de poussière, on a détruit. Ce qu'il nous écrit, dit qu'on a détruit des routes asphaltées. Maintenant, qu'en est-il? Quel est le programme? Parce qu'apparemment, ces routes qui étaient asphaltées ont été détruites et ils attendent pour voir quand est-ce que les travaux vont recommencer.
Madame, pour qu'un problème fasse l'objet d'une politique publique, il y a trois éléments. Le premier élément, c'est la portée du problème, c'est-à-dire combien de personnes sont concernées par ce problème. Le deuxième élément, c'est l'intensité de ce problème, c'est-à-dire quelle est l'importance de l'impact de ce problème dans la société. Et le troisième problème, c'est la durée, c'est-à-dire depuis combien de temps le problème se pose. Voilà les trois éléments qui font qu'un problème soit retenu au niveau d'une politique publique ou des politiques publiques. Pas quelqu'un cite la poussière. La poussière, si on voit les trois éléments qui font qu'un problème soit retenu comme faisant partie d'une politique publique, la poussière, c'est une conséquence d'une activité qui est en train de se réaliser dans la ville de Goma. Lorsqu'on a commencé les travaux de la route dans la ville de Goma, et que depuis deux mois, il y a de la poussière, aujourd'hui, est-ce qu'il faut-il considérer ça comme un problème qui doit faire partie des politiques publiques à édicter par une institution?
Il voudrait savoir quand est-ce que les routes
sont un problème passager que nous devons solutionner tout de suite, comme d'ailleurs ça est le cas maintenant. Lorsque le goudron va passer au niveau de la route de Goma, ça sera fait. Et encore, que faut-il qu'on le dise, la ville de Goma ne constitue pas la province du Nord Kivu. Nous ne devons pas axer toute notre politique sur uniquement la ville de Goma. J'ai fait une comparaison entre ce qui est fait à Kinshasa. Lorsque le chef de l'État a dit de réhabiliter presque le boulevard de Kinshasa, les gens disent qu'il s'occupe de la capitale, il ne s'occupe pas de l'intérieur.
Lorsque Julien Falouk construit des hôpitaux, des écoles, des ponts un peu partout, on dit qu'il s'occupe de l'intérieur, il ne voit pas M. Fouillet. Oui. Alors, qu'est-ce que nous devons faire?
Mais il y a aussi méthode qui
nous devons faire la part des choses. Oui. Chacun a une politique qui le dicte lorsqu'il a la tête d'une institution. Et j'ai mes propres politiques qui seront évaluées à l'issue de 5 ans.
Oui.
Qui vont faire que demain, je redevienne gouverneur ou alors pas.
Oui, Awali Kale aussi, on a posé cette question. À quand la réhabilitation des routes?
Allô?
À Wali Kale, il y a méthode Wali Kale qui aussi se pose des questions pour savoir à quand la réhabilitation des routes. Parce que vous
Madame,
dites qu'à Goma, mais à Wali Kale,
c'est
un même problème.
Nous avons déjà commencé à réhabiliter la route de Wali Kale à l'heure qu'il est. Le premier véhicule est en train d'arriver à Wali Kale. Seulement, nous reconnaissons qu'entre Massissi et Wali Kale, il y a encore quelques postes d'insécurité. Mais au moins, je peux vous rassurer que nous avons déjà ouvert le tronçon qui va de Massissi jusqu'à Nyabiondo, qui était impraticable depuis des dizaines d'années. Lorsque nous avons commencé l'émission, madame, j'ai dit que lorsqu'il y a eu un déficit d'une culture d'évaluation dans ce pays, tout le monde cherche à évaluer ce qui n'a jamais été fait depuis 1960 comme relevant aujourd'hui de ce qui devrait être fait par le gouverneur Julien Falou.
C'est un déficit de communication.
De la période où nous avons été à la tête de la province.
Donc il y a un déficit de communication entre le gouvernement et les administrés. Parce qu'apparemment,
pourquoi j'ai accepté effectivement moi-même de devoir faire partie de cette émission pour que j'éclaire l'opinion sur un certain nombre d'éléments. Parce qu'effectivement, la radio Okapi a l'avantage, même si on peut relever quelques insuffisances, a l'avantage de devoir être écouté partout et de se faire, attendre les voix des autorités. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté pour que je dise à l'homme de Wali Kale que nous sommes en train de faire la route et que le premier véhicule peut déjà aller à Wali Kale à l'heure qu'il
est. Et que dites-vous à Chantal Faïda, qui estime, qui voudrait avoir plus de précision, elle a l'impression que les libertés publiques ne sont pas respectées. Elle dit pourquoi la démocratie n'est pas encore une réalité dans le gouvernement. Prenons l'exemple des marches pacifiques qui ont été sabotées en mai dernier.
Madame, tout ça c'est parce qu'on ne sait pas faire une analyse comparative. Dans cette ville de Goma, lorsque les gens étaient assassinés avant notre avènement, ils étaient même interdits d'organiser des deuils dans cette ville de Goma. Je sais que dans cette ville de Goma, lorsque les gens étaient assassinés, ils allaient enterrer clandestinement leurs morts. Aujourd'hui, lorsque l'avènement de la démocratie est arrivé, tout le monde s'exprime librement. Vous pouvez demander aux médias ici, on parle du gouverneur, du gouvernement, on fait des analyses critiques. Et quand quelqu'un veut aller dans la rue pour devoir marcher, eh bien, nous devons identifier c'est qui. Vous savez que la dernière marche qui devait avoir lieu dans la ville de Goma, c'est une marche militarisée. C'est des hommes qui étaient à l'uniforme et qui s'étaient transformés en civils, qui voulaient abattre tous les manifestants et mettre ça sur le dos du gouverneur. Voilà pourquoi les services nous ont renseigné et nous avons estimé que ce n'était pas un groupe social structuré. Mais lorsque nous aurons un groupe social structuré, société civile, opérateur économique, qui demande une marche, qui veut aller dans la rue, pour cette situation, eh bien, nous allons l'accepter. Moi, j'ai été aux États-Unis. Devant la Maison Blanche, il y a toujours des pancartes pour dire « Nous ne voulons pas ceci, nous refusons les systèmes nucléaires, nous refusons cela. » Donc, il faudrait que le groupe soit structuré et organisé pour que nous l'autorisions à devoir organiser une marche. Mais lorsque vous savez que le Nord Kivu a beaucoup de gens qui se transforment aujourd'hui en civil, demain en militaire, et que ce sont ces gens que nous avons identifiés, et nous faisons leur nom ici, et que c'est ce qui était le patron de la marche, on m'a, en tant qu'autorité, vous pouvez accepter cela.
Oui, aussi.
Tout le monde est dit, opérateurs économiques, étudiants, lorsqu'ils ont constaté effectivement qu'il y avait des hommes armés dans la marche, ils ont fait des déclarations pour renoncer à la marche.
Oui,
mais que madame dise, les jours où elle va organiser une marche, bien organisée par une structure bien connue, je demanderai au maire de lui autoriser.
Oui, il y a aussi cette question d'accès à l'eau potable. Nous savons que l'exclusivité, c'est la régie des eaux, que c'est centralisé. Mais au niveau de Goma, est-ce que vous n'avez pas mené certaines actions pour que l'accès soit assez, que toutes les populations dans tous les territoires puissent accéder facilement à l'eau potable, par exemple en aménageant les sources d'eau?
C'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on fait l'évaluation d'un gouvernement, on fait l'évaluation des politiques du gouvernement. Il ne faut pas qu'on considère la province comme une ONG. Pour commencer à me demander combien d'arbres on a plantés,
combien de sources d'eau potable on a aménagées. La province n'est pas une ONG. La province a développé des politiques. Première chose, un partenariat avec tous les acteurs nationaux et internationaux. Deuxième chose, des activités qui relèvent aussi du gouvernement provincial. Et lorsque des ONG sont venues, par exemple, nous aider à faire des addictions d'eau potable à travers toute la province, lorsqu'on a construit d'autres infrastructures, cela est à mettre sur les dos du gouvernement provincial au chapitre du partenariat qu'il a développé avec les acteurs. Alors, demander que, à chaque fois qu'on évalue un gouvernement, on va recenser le nombre d'arbres plantés, le nombre de sources réalisées, c'est en fait, en fait, à l'étudier même d'une évaluation, c'est nous ramener à considérer la province comme une ONG qui n'a que quelques activités à réaliser, alors que nous mettons en place une politique qui constituent des grandes orientations dans tous les secteurs. Oui, mais nous avons 10 secteurs qui sont gérés par 10 ministres et qui, en fait, sont en train de faire en sorte que les politiques de chaque ministère soient bénéfiques à chaque population. Nous reconnaissons que nous pouvons avoir des problèmes dans un secteur donné, le secteur de l'eau. Nous n'avons pas beaucoup fait, mais je vous ai dit, en 5 ans, quelle que soit la personne qu'on mettrait à la tête d'une province, on ne peut pas attaquer tous les problèmes et y trouver des solutions. Parce qu'on les a assimilés depuis 1960, c'est tout à fait normal que tout le monde veuille aujourd'hui qu'on puisse y trouver une solution. Mais dans la deuxième législature, à la troisième, à la quatrième, les gens vont commencer à évaluer et reconnaître que nous qui avions été les premiers à diriger la première législature, nous devons d'ailleurs être à décorer.
Monsieur le gouverneur, restez en ligne, nous allons écouter Jean-Paul de Béni, gentil de Boutembo, et aussi nous allons vous inviter à suivre le flash d'information. Tout juste après ce flash, nous aurons une seconde partie de parole aux auditeurs. Nous aurons encore 15 minutes d'échange sur la situation du Nord Kivu avec le gouverneur comme invité. Nous prenons Jean-Paul et gentil avant le flash d'information.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Jean-Paul.
Jean-Paul Capitula, j'appelle le Bénin.
Nous vous écoutons, Jean-Paul.
Oui, je voulais d'abord saluer le gouverneur, son excellence, Julien Palou Kangatasson, parce que c'est un homme, c'est vraiment un homme grand, qui sait quand même ce qu'il est en train de faire, et nous le félicitons parce qu'il a fait quelque chose à bien. Mais je voulais encore partir de ce qu'Aimé a dit au début, lui qui donnait l'évaluation comme s'il frappait au gouverneur de province. Il faut qu'il fasse attention. Les institutions de la province, ce n'est pas les gouverneurs de province, mais c'est plutôt encore l'ensemble là de ces agents. Ça va au niveau de la province. Il y a aussi les élus. Moi, je peux parler. S'il n'y a pas l'intermédiaire entre la population et le gouvernement provincial, c'est un problème des élus. Et ces élus, effectivement, on a reçu à Beni le vice-président de l'Assemblée provinciale de Goma, qui nous a dit clairement dans sa restitution qu'on a reçu que 25 rapports au cours de 5 ans. Voilà maintenant des élus fatigués, des élus qui sont partis sans savoir ce qu'ils sont allés faire. Donc, l'évaluation générale qui devrait se faire, c'est de la part d'abord de la bonne gouvernance, ça devrait se faire de la politique générale de la province, et aussi de la démocratisation de la province. Le gouverneur a fait ce qu'il pouvait faire. Les tueries qui se font par-ci, par-là. Mais qui se passe au niveau de la province, il y a toujours des problèmes où la population ne connaît rien, ou effectivement, elle fait ce qu'elle veut, et même conduite, dirigée par des métaphys. Et ce n'est pas le gouverneur qui est derrière tout ça. On a défendu du gouverneur parce qu'on ne pouvait pas voir les institutions que nous sommes en train de voir aujourd'hui, où au moins on rend même la justice à celui qui ne l'a pas. Mais on évoque aussi certaines fausses d'insuffisance, évidemment. Parce que les hommes sont toujours humains, et même en Amérique, ça existe. Et même en France, ça existe. Et donc, notre province, de la part générale, est en train d'évoluer. Nous pouvons dire qu'elle était à un échelon de 1. Et aujourd'hui, on peut déjà dire que nous sommes au niveau du 6, c'est sûr.
Merci beaucoup, Jean-Paul. 60% exécuté. Nous vous remercions pour vous, c'est positif. Nous vous remercions pour votre intervention. Nous prenons gentil. Et c'est trop habité. Bonjour.
Bonjour, madame Chantal.
Nous vous écoutons, gentil, en 2 minutes, parce que bientôt va intervenir notre prochaine information.
Ok, merci, madame. J'ai quelques questions pour dire à notre gouverneur. Je vous puisse nous expliquer depuis qu'il est gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait dans la ville de Bissel. Qu'il soit bref.
Oui, c'est une question.
Il puisse nous dire encore les problèmes de l'hôtel de ville les chantiers de l'hôtel de ville de Bissel. L'hôtel de ville vient de faire au moins 10 ans chantier. Alors lui, en tant que gouverneur, qu'est-ce qui passe à notre chantier là?
Un chantier de
ville.
Merci beaucoup, gentil. Nous allons lire ce message de Edemaga Oléa. Il nous écrit aussi de Butembo. Lui, il a dit que nous avons déjà lu ce message. Nous allons lire maintenant le message de Sam Kamoura de Butembo. Il nous écrit ceci, le gouverneur aurait beaucoup fait s'il n'y avait pas l'insécurité. Le bilan est quelque peu positif. Je suis ravi que ma province puisse être comptée parmi les pourvoyeurs du budget national. Si l'Assemblée a été improductive, il faut condamner le peuple qui a élu ses députés. Et nous avons aussi ce message de Jafet, qui nous écrit aussi de Butembo. Selon moi, comparativement au gouvernement d'avant les élections de 2006, le gouvernement Julien, le gouvernement Paluku a travaillé beaucoup sur le plan sécuritaire, même s'il y a encore quelques troupes rebelles qui sèment l'insécurité au Nord Kivu. Le gouverneur ne cesse d'arriver là où il y a des troubles. Le cas de la ville de Butembo, l'insécurité bâtie record, et le gouverneur y est venu. Le gouvernement Julien Paluku nous a élevés trop loin suite à sa bravoure. L'état actuel de la province n'est pas celui que nous avons connu avant les élections de 2006, où les armes ne savaient que chanter l'hymne de mort. Il y a aussi Égide Lallée qui nous a écrit ceci. Question au gouverneur du Nord Kivu. Quel impact sur la situation sécuritaire dans le Rutshuru et le Masisi après l'installation temporaire des institutions provinciales dans ces territoires par le gouverneur? Pourquoi a-t-il choisi de s'y installer après l'attaque du convoi du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire alors que tous les jours on attaque les convois des civils et des humanitaires? Trouve-t-il le ministre plus important que des milliers de populations de ces territoires? Le président de la République était de passage dans ce territoire et rien n'a changé. La deuxième question, la situation est-elle redevenue à la normale? C'est pourquoi le gouverneur a décidé de retourner des institutions à Goma. Qu'en est-il des déplacés qui ne savent pas quoi faire à qui couvre? Voilà les questions, les préoccupations d'Égide Lallée qui nous a écrit à travers pa@radiookapi.net. Et nous rappelons qu'aujourd'hui, l'émission est consacrée sur le bilan des institutions provinciales dans le Nord Kivu. Notre invité est le gouverneur Julien Paluku. L'exclusivité des interventions aux auditeurs habitant la province du Nord Kivu, il suffit de composer le 081 890 69 69 ou de nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Dans quelques instants, va intervenir notre bulletin d'information. Et après cela, nous aurons une seconde partie de votre émission Parole aux auditeurs. Pendant 12 minutes, nous allons prendre encore deux auditeurs, lire quelques messages et accorder la parole à notre invité pour une conclusion.
Émission spéciale Parole aux auditeurs, consacrée à la province du Nord Kivu.
Quel bilan faites-vous à ces jours du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Les auditeurs habitant la province du Nord Kivu, prenez rendez-vous avec toute l'équipe PA ce mercredi 22 juin de 10h à 11h15. Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action.
Et nous poursuivons Parole aux auditeurs, sa seconde partie, le bilan des institutions provinciales dans la province du Nord Kivu. Nous espérons que le gouverneur est toujours en ligne. Le gouverneur est toujours là. Nous avons des problèmes avec la ligne téléphonique du gouverneur. Nous allons essayer de pouvoir le recontacter pour qu'il puisse répondre aux préoccupations de la dernière série d'auditeurs qui vient de suivre. Et nous allons prendre encore deux autres auditeurs avant de pouvoir clôturer cette émission. Lisons d'abord ce message de Mangou qui nous écrit de Butembo. Il nous écrit ceci. Le gouvernement de la province contribue aussi au chantier du chef, aux cinq chantiers du chef de l'État, tels que la construction des routes partout dans la province. C'est ce que pense Mangou Kambalé de Butembo. Il y a aussi Ézéchiel de Walikale dans notre province. Le gouvernement provincial gère la province avec partialité. Il y a des territoires qui sont favorisés, les autres non. Et ce sont maintenant ces territoires oubliés qui contribuent à la réalisation des projets. C'est aussi une mauvaise volonté de la part des dirigeants qui eux-mêmes ont fait semblant de descendre ce terrain dans quelques territoires et se sont rendus compte de la souffrance de la population et n'ont rien apporté comme réponse à leur requête. Nous avons Patrick, il est à Goma. Bonjour Patrick. Patrick? Encore une
fois. Les années là, le gouverneur de la province du Nord Kivu est à bravoure.
Oui.
Je veux dire que le bilan de la province est vraiment totalement négatif. Je vais lire là et j'ai eu la chance de lire le programme du gouvernement de la province du Nord Kivu qui a été publié en avril 2007. Sur le plan des activités économiques, il est noté dans le programme que le gouvernement va rechercher des financements pour réhabiliter au moins une route par an et par territoire ainsi qu'une voirie en les consolidant de manière adaptée au climat pluvieux de la province. Et là, le gouvernement devrait réhabiliter les infrastructures routières. Route provinciale à réhabiliter et consolider. Il y a la route Goma-Irengeti, la route Sake-Walikale vers Lubutu, rien n'a été fait. La route Walikale-Hombo vers Bukavu, route Ruchuru-Bunagana, Beni-Kasindi, route Sake-Mweso-Kanyabayonga, rien n'a été fait. Sur le plan des infrastructures de voirie et drainage, réhabiliter la voirie existante et asphalter les grandes artères des villes et cités. Dans les trois villes de la province du Nord Kivu, aucune artère réhabilitée. Doter les centres urbains et cités des réseaux d'assainissement, voirie et drainage adéquats. Rien n'a été fait. Sur le plan sécuritaire, sécuriser toute l'étendue de la province. Encore, vous êtes sans ignorer, madame, que sur toute la province du Nord Kivu, il y a encore des postes de sécurité. Même dans mon territoire, Walikale, les gens sont entrés encore de se battre vers Mouton.
Merci beaucoup, nous n'avons pas,
pour intervenir.
Nous n'avons pas assez de temps. Vous avez énuméré quelques préoccupations que vous avez et vous souhaitez que l'exécutif provincial puisse arriver à pouvoir réaliser ces projets-là. Nous vous remercions. Nous prenons Jean-Claude en une minute. Lui aussi, il est à Walikale. Jean-Claude, vous avez une minute. Le temps de pouvoir aussi remettre la parole à notre invité. La réalisation de ce film que nous avons pu le joindre à nouveau. Patrick, c'est plutôt Jean-Claude. Nous vous écoutons.
Ah oui, madame, je vous remercie d'abord parce que vous nous associez également à cette émission. Qu'est-ce que je dirais par rapport à la réalisation du gouvernement provincial ici en territoire de Walikale? Bien sûr, les gens du Grand Nord peuvent applaudir ce qu'il y a en fait, donc ce que le gouvernement vient de réaliser dans ces coins-là, mais à Walikale, c'est déplorable. Parce que quand nous regardons un peu dans le secteur de la santé, pour le moment, il y a une collecte qui va bientôt commencer ici à Walikale pour que l'hôpital soit renforcé en médicaments. Est-ce que ça, c'est vraiment une responsabilité de la population? Qu'est-ce que le gouvernement, le gouvernement provincial pour que la population puisse se prendre en charge, surtout dans le secteur de la santé ici en territoire de Walikale? Comme vient de le dire le précédent, sur le problème des routes à Walikale, c'est grave, mais comparativement à ce que le gouvernement provincial a fait dans le Grand Nord à Walikale, donc on dirait que le bilan du gouvernement provincial est tellement négatif.
Merci maintenant. Beaucoup Jean-Claude, parce que là nous n'avons plus assez de temps. Il y a aussi ce dernier message de Mbayaï Paloukou, il nous écrit ceci: je dois d'abord dire que cette province n'est pas comparable aux autres parce qu'elle présente des particularités sociopolitiques. Il y a eu la guerre avec Laurent Kunda et l'insécurité y règne en maître, c'est-à-dire que beaucoup d'efforts sont orientés vers la pacification. Il existe liste des domaines de projets de développement qui relèvent de la compétence du gouvernement central, notamment l'électrification des villes, les routes nationales. Le gouvernement provincial a fait ce qu'il a pu. Imaginez, même les 40% de rétrocession n'arrivent toujours pas en totalité dans la province. Ce qui se fait à Kinshasa ne favorise pas le développement des provinces. C'est ce que nous écrit Mbayaï Paluku. Monsieur le gouverneur, j'espère que cette fois-là, vous êtes au bout du fil parce que nous cheminons vers la fin de cette émission. Vous avez dit que vous avez doublé les recettes, la mobilisation des recettes dans votre province. Et actuellement, quelles sont vos priorités pour que cette population qui a tant de besoins puisse au moins connaître comment est-ce que vous êtes en train de fonctionner?
Merci beaucoup, madame. Je ne vais pas répondre aux différentes questions qui m'ont été posées, si vous le permettez, avant de conclure.
Oui, vous pouvez y aller, monsieur le gouverneur.
Oui, je comprends. Et d'ailleurs, je suis heureux que beaucoup de gens ont déjà lu le programme. Ce que je dois reconnaître, c'est que au moins, la population ayant lu mon programme trouve qu'il y a un outil de gestion qui nous guide dans ce que nous faisons. C'est très, très important. Et lorsqu'on voit des revendications un peu partout, ça traduit les soucis de la population de voir beaucoup d'autres choses se réaliser dans la province. Lorsque Jean-Paul Debeni est intervenu, je suis d'accord avec lui, il a fait une très, très bonne intervention. Je le remercie pour au moins la reconnaissance de ce que nous avons fait. Madame Chanty de Boutembo m'a posé la question sur ce que nous avons déjà fait à Boutembo. Il ne m'a pas surpris de revenir sur tous les aspects immatériels, matériels que nous avons déjà réalisés dans la ville de Boutembo par rapport à la sécurité, comme d'aucuns le savent, par rapport aux infrastructures, comme d'aucuns le savent, dans la commune Boulengera, dans la commune Kimemi, sur la route qui va à Beni, beaucoup de choses réalisées dans la ville de Boutembo, à l'université catholique de Graben. Même si je ne suis pas d'accord avec celui qui dit que nous avons tout réalisé dans le Grand Nord, ça c'est faux et archi faux. L'opinion doit retenir que chaque entité a reçu presque proportionnellement quelque chose du gouvernement provincial, excepté les territoires de Walikale qui étaient désenclavés. Et là, je suis d'accord avec ceux qui ont parlé de Walikale. Lorsque nous y avons construit une seule école, nous amenions les matériaux par avion, s'il vous plaît. On amenait les ciments, les fer à béton par avion, pour construire la seule école de Walikale. Et l'école que nous avons construite a coûté presque le triple de ce que nous construisons pour une seule école. Alors nous avions le choix de poursuivre à construire Walikale pour que nous ayons une école en lieu et place de Troyes. Voilà ce que je dois répondre à mes compatriotes de Walikale. Maintenant que la route est passée, nous allons nous y atteler. Lorsque je vois Kamua de Boutembo qui a parlé, qui a remercié tous les efforts que nous avons déployés, je dois les remercier pour cela. Et Gide, il se dit, mais nous sommes allés à Rutshuru, seulement après que l'on ait attaqué les ministres. Là, j'ai dit aussi non. Nous avions déjà établi un programme d'itinérance dans chaque territoire. Le premier territoire, c'était Walikale. Nous y avons fait 4 jours. Et le deuxième territoire, c'était Rutshuru. Malheureusement, nous avions interrompu notre émission à Rutshuru parce que nous étions invités à New York au Conseil de sécurité. Mais aussitôt devenu de New York, nous sommes allés à Rutshuru. Et malheureusement, ça coïncidait avec l'incident qui a frappé notre ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Et lorsque on voit Ezekiel de Walikale qui dit qu'il y a des territoires favorisés, je pense que vous venez de lui répondre en lui disant qu'il n'y a pas de faveur accordée à un seul territoire. Quand je reviens à Gentil, Madame Gentil, qui dit l'hôtel de ville de Boutembo, c'est un besoin. Je retiens que c'est un besoin qui vient d'être exprimé et je le sais parce que j'ai été maire de cette ville et c'est nous qui avions commencé d'ailleurs à l'époque cette initiative avec les opérateurs économiques. Là, je parie qu'au niveau du gouvernement provincial, nous allons élaborer des stratégies pour devoir apporter rapidement un appui afin que cet hôtel de ville soit vite achevé. Monsieur Patrick, il a salué notre bravoure, c'est dont je le remercie. Au moins, on reconnaît quand même que cette province a été gérée pendant quelques temps, en lieu place de 5 ans. Lorsque les gens disent que j'ai géré la province pendant 5 ans, je dis non, je ne l'ai géré que pendant 2 petites années. Les 3 années, c'est des années de guerre, des années où nous avions 2 millions de déplacés, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, parmi les indicateurs sociaux que nous devons porter à la connaissance de l'opinion, c'est qu'il n'y a pas un seul déplacé aux alentours de Goma, alors qu'il y a 2 ans, 3 ans, c'était plein. J'ai eu à recevoir Ban Ki-moon, j'ai eu à recevoir Alain Leroy, j'ai eu à recevoir tous les grands du monde, même Madame Hillary Clinton. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes au Nord Kivu. Pourquoi aujourd'hui ils ne sont plus revenus? Ils sont en Égypte, ils sont en Tunisie, ils sont en Libye, ils sont au Yémen. C'est parce que les problèmes se trouvent plus au Nord Kivu. Comment on ne peut pas reconnaître que tous ces efforts-là Julien Falouk avec son gouvernement et l'Assemblée provinciale, nous y avons une grande part de responsabilité pour qu'aujourd'hui on stabilise la province et que les gens désormais commencent à quitter Goma vers Butembo par route. Et les gens peuvent
aussi le gouvernement. Vous avez quand même
le droit de moi de reconnaître quand même tout ce que nous avons fait. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis quand même. Lorsque j'ai fait une analyse de toutes les interventions, tout le monde reconnaît ce que nous avons fait, malgré les petits temps que nous avons eu à gérer la province.
Monsieur le gouverneur, n'oublions pas que vous avez aussi reçu un grand soutien quand même du gouvernement central, appuyé par la communauté internationale, parce que souvent, quand on pose des questions aux membres du gouvernement concernant le budget, ils disaient la priorité c'est l'Est, c'est les Kivu, concernant la pacification.
Effectivement, je n'ai pas dit que tout ce qui a été réalisé, ce sont seulement les efforts de Julien Paloukou ou de son gouvernement. Nous avons bénéficié personnellement de l'appui d'abord du chef de l'État, lui-même, ensuite de son gouvernement, qui est dirigé par le premier ministre Adolfo Mouzito. Nous avons bénéficié de tout ce soutien pour qu'aujourd'hui les gens commencent à penser à aller dans la rue. Quand est-ce qu'au nord Kivu, on pouvait un seul instant penser qu'il faut même marcher? Aujourd'hui, au moins, les gens peuvent croire qu'ils peuvent demander une marche, qu'ils peuvent revendiquer parce qu'il y a la poussière. Mais ce problème-là, ne peut pas constituer un objet de discussion. Il y a deux ans, aujourd'hui, les gens veulent aller dans la rue pour marcher, revendiquer qu'il y ait de l'eau, revendiquer l'électricité. C'est ça l'expression de la démocratie. Et ça symbolise que le gouvernement que je dirige est en train de faire son travail correctement.
Merci.
Et il me motive demain à devoir briser un second mandat à la tête de la province.
Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, pour avoir répondu à notre invitation, et nous disons également merci à tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus, que ce soit par mail ou bien en direct, et nous remercions aussi ceux qui nous ont suivis en FM ou connectés sur www.radiocapi.net. Et je rappelle que le prochain rendez-vous avec une province sera le mercredi prochain, et nous serons dans la province du Kasaï oriental. Parole aux auditeurs de demain, nous allons encore une fois célébrer la journée du 16 juin, nous commémorer cette journée, la journée de l'enfant africain, et c'était une occasion pour l'association des albinos de réfléchir sur la situation des enfants albinos en RDC qui, selon l'association, souffre d'une discrimination. La question qui va lancer l'émission de demain, comment favoriser l'intégration des enfants albinos dans la société? Et vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet ca@radiocapi.net. Entre-temps, restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ce programme.